Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette assurance que tu nous donnes, que tu donnes à tes enfants, de pouvoir entrer couverts par ta justice dans le Saint-Lieu. Te remercions pour ces instants que tu nous as accordés. Nous avons pu prier, porter les fardeaux les uns des autres, et nous te demandons que tu nous conduises maintenant dans ta parole pour la gloire de ton nom et pour notre croissance et notre bénédiction. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que nous avons entamé il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, peut-être, je ne sais plus exactement, comme thème. Est-ce que vous vous souvenez? Le pardon. Voilà. Hein. Il y en a qui suivent, hein. Tout le monde ne dort pas le mardi soir, hein. Voilà, très bien. On avait commencé un petit peu à considérer le thème du pardon. Alors, c'est important parce que il y a comme ça dans notre manière de vivre la vie chrétienne des choses que l'on suppose que l'on connaît. Et puis, quand on est dans la situation, parfois on se rend compte que l'on ne forcément, on sait pas trop comment agir de manière biblique, où on pense que notre manière d'agir, c'est la manière biblique d'agir, tout simplement. On a une idée sur ce qu'il faut faire dans les situations conflictuelles, quand les relations sont tendues. On réagit d'une manière ou d'une autre, et puis on pense que notre manière d'agir, c'est la bonne manière d'agir. Parfois, hein, dans les situations. Et il est important de savoir ce que la Bible dit. La Bible parle beaucoup de pardon. Et on avait cité beaucoup de cas où il y avait eu des problèmes relationnels. Et je pense que personne ici ne peut dire qu'il n'a pas encore eu de problème relationnel. Hein. Quand deux pécheurs se rencontrent, quelqu'un disait, ça fait des étincelles. Hein. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent être tendues, mais Dieu nous demande de savoir comment régler les choses. Donc on avait considéré deux choses. On avait donné comme titre dans cette première étude le pardon, une responsabilité partagée. Donc on avait considéré le pardon du point de vue de l'offensé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, de la personne qui est offensée. Et on veut aussi ce soir la considérer du côté de l'offenseur. Hein? Du côté de l'offenseur. On avait considéré le fait que l'Écriture hein, fait peser une responsabilité sur celui qui est offensé dans le processus du pardon. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Vous n'avez pas pris de notes, c'est pour ça. Hein? Les deux sont coupables, on a dit ça? Peut-être, à peu près. Hein? D'accord. Voilà, donc ça veut dire que si jamais il y avait une situation, on ne sait pas, on ne s'en rappelle pas ce que l'Écriture nous dit, en fait, comment agir. Hein? Ah, voilà. Donc une manière d'être attentif et de retenir, c'est de prendre des notes, hein, de prendre des notes. C'est très important parce qu'on ne se souvient pas des choses et c'est pour ça qu'il faut écrire. On avait dit qu'il avait la responsabilité d'entreprendre la réconciliation. Parce que la Bible disait, on lisait à plusieurs endroits, si ton frère a péché contre toi, va, que tu te souviennes qu'il a quelque chose, tu entreprends le processus qui doit conduire à la réconciliation. Et que parfois, l'offensé avait tendance à se refermer sur lui-même parce que, voilà, il souffre un peu, et il dit, voilà, c'est ma souffrance, c'est moi, c'est mon. Et donc, il n'a pas forcément envie de faire le pas, d'aller vers l'autre. Il pense plutôt que c'est l'autre à l'autre de faire le pas et de venir vers lui. Mais l'Écriture dit, hein, quand même, que celui qui est offensé, il doit apprendre aussi à faire le pas. Donc, je ne vais pas tout redévelopper ce qu'on avait dit. Si vous avez pas vous voulez les notes, je peux vous les renvoyer hein, si vous avez oublié, mais c'est important hein, de retenir parce que c'est ce qu'on doit appliquer après. Hein. Il y a aussi la responsabilité d'être animé d'une bonne disposition à pardonner. ne dois pas dire « jamais je pardonnerai ça ». C'est impossible. Après ce qu'il m'a fait ce coup-là, ça c'est impardonnable. Hein, si on est avec cette attitude, on se renferme. Et l'Écriture nous dit « prenez garde à vous-même ». Okay, si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc tu dois y aller. Donc il y a cette disposition à pardonner qui doit demeurer. On avait considéré aussi cette responsabilité d'avoir un cœur qui est touché par la relation brisée. On avait dit ça un peu comme ça, d'être attristé par la relation qui est rompue. Hein? Les gens qui disent, moi, ça ne me fait rien, ils ne me parlent pas, moi. Je m'en porte que mieux. Hein? Non, quand il y a une situation tendue, il y a eu offense, eh bien, la relation, elle est rompue, et ça doit, c'est la relation avec un frère, une sœur, ça doit nous affecter. Donc, c'est une responsabilité de nous, voilà, de vivre hein, de cette manière-là, en étant touché par ce qui nous arrive, un peu comme on avait vu l'exemple de Joseph. Et puis, dernièrement, on avait souligné, je crois, le fait, la responsabilité de ne pas insister sur sa blessure personnelle. Parfois, notre blessure a plus d'importance pour nous que la relation qui a été brisée. On dit, moi, tu ne sais pas comment j'ai souffert de cette situation. Et pour nous, c'est ça le gros du gros du truc, c'est qu'on a souffert. Mais ce n'est pas ça qui est la chose, bien sûr, on souffre. Mais ce n'est pas ça qui est la chose la plus importante. On avait vu l'exemple de Joseph hein, qui n'a pas passé son temps à dire à ses frères, vous savez pas, pendant toutes ces années, combien j'ai souffert loin de la famille, hein, loin de mon père, etc., dans un pays étranger, etc. Il a rien dit de toutes ces choses-là. Hein. Et nous aussi, nous devons apprendre dans les situations comme tendues que nous pouvons avoir, eh bien, à ne pas mettre notre blessure en premier, mais le désir de pardon et de réconciliation en premier. Ça, c'était une chose qu'on avait soulignée. Alors, on veut considérer ce soir un peu la responsabilité du côté de l'offenseur. Alors, premièrement, la question que je vous pose, est-ce qu'il a une responsabilité, l'offenseur? Oui? Alors, à votre avis, quels sont ces ou quelle est ça? Responsabilité. C'est pas une responsabilité. Non, quelle est sa responsabilité dans le processus du pardon? J'ai peut-être mal posé ma question. La responsabilité dans le processus du pardon. Se repentir, s'humilier. Oui, c'est ça que tu voulais dire? Ah oui, oui, non, mais. Je vois ce que tu veux dire. Donc, quand je dis la responsabilité, qu'est-ce qu'il doit faire dans le processus du pardon hein? Pas quelle est sa responsabilité pénale hein, dans l'affaire, mais quelle est sa responsabilité? Oui? La relation, si on a offensé quelqu'un. D'accord? Oui? S'excuser? D'accord? Reconnaître ses torts? D'accord. Donc, par exemple, imaginez que vous êtes dans une situation où quelqu'un vous a offensé. Ou alors, vous devez conseiller quelqu'un aussi, peut-être c'est vous avez été offensé par quelqu'un ou voilà, vous connaissez deux personnes dans l'église, par exemple, on va parler entre les chrétiens, qui l'une a offensé l'autre. Mais c'est la personne qui a été l'offenseur ne fait rien pour arranger la situation. D'accord? Comment vous allez conseiller ou comment vous allez faire? Est-ce que vous allez... Parce qu'il y a une responsabilité qui repose aussi sur l'offensé, on a déjà en parlé. Qu'est-ce que vous allez faire pour établir la situation? Est-ce que vous allez dire, bon, il faut que je pardonne parce que l'Écriture me commande de pardonner. Peu importe si lui, il ne fait aucun geste, il ne dit rien. Il ne se repent pas, il ne reconnaît pas. Moi, je dois le pardonner. Est-ce que vous pensez que c'est correct de dire ça? Il faut que ça vienne du cœur, oui. Oui, parce que... il faut être, tu dis? Conscient, oui. Parce qu'on dit parfois... Il faut pardonner de manière unilatérale, c'est-à-dire si l'autre ne demande pas pardon, c'est son problème, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je pardonne. Parfois, deux personnes peuvent avoir un différend et on dit, écoute mon frère, pardonne. Il veut pas, il fait pardonne. Tu es au Seigneur, tu connais le Seigneur. Après tout, le Seigneur nous a pardonné. Est-ce que vous pensez que c'est juste bibliquement? C'est une question difficile un peu, hein? Ça doit. Peut-être, je demande, est-ce que c'est juste bibliquement? D'accord. OK. Voilà. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul dit aux Colossiens, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous réciproquement. D'accord. Est-ce qu'il est en train de dire que, voilà, si l'autre ne veut pas pardonner, c'est pas grave, vous vous pardonnez. Comme Christ a pardonné. Oui. C'est un ordre. Pardonnez-vous réciproquement. Donc, on pardonne. Alors, par exemple, est-ce que vous pensez que dans l'Écriture, il y a des textes ou des situations où les gens pardonnent quelqu'un qui a été offensé, il pardonne à l'autre, sans rien exiger de l'autre. Joseph l'a fait. D'autres? David et Saül. Oui. D'accord. Est-ce que Dieu fait ça? Oui, il y a le fait de pardonner plusieurs fois, sans limite, un pardon sans limite. Mais je ne parle pas du pardon sans limite. Je parle du pardon sans condition. C'est conditionnel à la repentance. Dans ce texte-là, je vous demande, est-ce que vous avez est-ce que vous avez un texte qui vient à votre esprit où il y a le pardon sans condition? Jésus sur la croix, quand il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est un pardon sans condition? C'est une prière qu'il fait à son Père, où il demande à son Père de pardonner. Mais comment est-ce que le Père pardonne? Par l'œuvre qui est en train de s'accomplir à la croix, là. Donc, il ne dit pas à son Père, tu fermes les yeux et tu pardonnes. Efface. En fait, oui, Étienne, c'est pareil, c'est quasiment la même prière que Jésus à Étienne. Hein, d'accord? Il prie, il demande à Dieu de pardonner. Mais est-ce qu'il dit, moi, bon, tant pis, je les pardonne, peu importe ce qu'ils font. Il n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire, Dieu, pardonne-les. Pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. C'est une manière de prier qu'ils puissent être sauvés. Parce que s'ils ne sont pas sauvés, ce péché, il leur est imputé. Hein. Donc c'est une manière de prier, on pourrait dire, pour que ces personnes connaissent, je pense, plus le salut de Dieu. En fait, je crois qu'on ne trouve pas ça dans l'Écriture. De pardon vraiment sans aucune condition. Et l'Écriture ne nous commande pas de pardonner sans condition. Le texte que vous avez lu tout à l'heure, qu'on a lu avec la prière de Salomon, vous avez vu comment il parle, Salomon? Il dit à Dieu, quand ils auront péché, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, alors il dit, pardonne-leur. Mais il dit pas quand ils auront péché, pardonne-leur. Il dit pas ça. Relisez tout le texte. À plusieurs endroits, il insiste. S'ils reviennent de leur mauvaise voie,
S'ils font ceci, alors pardonne-leur. Quand on lit les Écritures, hein, quand on lit les Écritures, on voit que Dieu exige la repentance pour le pardon des péchés. Il faut se repentir. Hein? Dieu annonce en tout lieu à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Et je vous lis quelques versets comme ça, mais on pourrait en lire plein. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. » C'est ça la repentance. C'est vraiment hein, changer de pensée. « S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. » Et donc, le pardon de Dieu est conditionné à la repentance, au fait de se détourner, au fait de prier, au fait de confesser. On peut voir cela. Lorsque l'apôtre Pierre prêche, par exemple, à la Pentecôte, vous vous rappelez de cela, et que les hommes, ils ont le cœur vivement touché, ils disent « Oh, mon frère, que ferons-nous ?» Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit « Bien, repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Repentez-vous pour le pardon. Et donc, on pourrait voir d'autres versets. On n'a pas le temps de faire ça ce soir, mais ces versets et bien d'autres montrent que le principe du pardon de Dieu implique la repentance. On parle pour le pardon de Dieu concernant le péché. On a lu le texte de Salomon, la prière de Salomon. Et l'Écriture nous exhorte en fait à pardonner comme Christ nous a pardonné, et ça ne veut pas dire que Christ nous a pardonné sans condition. Ça veut dire que Christ nous a pardonné pleinement, avec amour, avec miséricorde, mais aussi qu'il y a une conditionnalité dans le pardon de Christ. Donc on doit apprendre cela dans notre manière de gérer aussi le pardon. Alors, regardez dans Luc chapitre 7, on va regarder ce texte-là, Luc chapitre 17, pardon, versets 1 à 4. Luc chapitre 17, versets 1 à 4. Luc chapitre 17, versets 1 à 4. C'est Jésus qui parle du pardon ici. Luc chapitre 17, verset 1 dit « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer. » Donc, il parle ici du problème que représentent les relations conflictuelles. Hein, c'est ça qu'il souligne ici. Hein. Il dit « Et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Verset 3, il dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, » autrement dit, il a péché contre toi, hein, parce qu'un peu plus loin, il dit s'il a péché contre toi plusieurs fois. Hein. « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi sept fois dans le jour, et que sept fois il revienne à toi disant, quoi ? Je me repens, tu lui pardonneras. » Intéressant ce texte, n'est-ce pas ? Jésus dit comment il faut pardonner celui qui est offensé. Et il ne lui dit pas, si ton frère a péché contre toi, pardonne. Ce n'est pas ça qu'il dit ici. On est d'accord. Le commandement n'est pas de pardonner ici. Le commandement est de reprendre, et s'il se repent, tu pardonnes. Il faut prendre le commandement dans son ensemble. Il ne faut pas sauter les étapes. Et c'est pour ça que, voilà. Dans d'autres textes, il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, tu prends avec toi, dans Matthieu chapitre 18, tu crois, hein, tu prends avec toi d'autres personnes. S'il n'écoute pas, tu vas jusqu'à l'église. » Il y a un processus qui consiste à reprendre dans le but d'accorder le pardon, dans le but d'amener la repentance qui amène le pardon, qui amène la réconciliation. Et dans les relations interpersonnelles aussi, Jésus dit que c'est la même chose. Si ton frère a péché contre toi, tu es l'offensé, tu as la responsabilité. On avait dit la dernière fois, on a la responsabilité de l'initiative de la réconciliation, eh bien, consiste à mettre la personne face à ses responsabilités. Alors, bien sûr, on ne fait pas ça toutes les 36 secondes, quoi. Si quelqu'un a dit un petit truc, parfois, il y a tout un tas de choses dont il faut s'armer, hein. Sinon, on va passer son temps à reprendre tout le monde. Vous allez me reprendre à peine je sors d'ici, hein. Donc, c'est pas dans ce sens-là. Mais quand il y a une faute avérée, aggravée, qui entraîne une espèce de rupture, de relation, quelque chose qui amène une tension, il dit, on ne doit pas laisser les choses comme cela. Il dit, il faut reprendre. Mais le pardon ne peut être accordé, il dit ici, que si la personne se repent. Et donc, on pourrait dire que la responsabilité, ce soit, si on veut parler comme ça, de l'offenseur dans le processus du pardon, c'est la repentance. Il doit se repentir. Et c'est là qu'est le commandement que Jésus donne ici. Il conditionne, donc on pourrait dire, le devoir de pardonner qu'à l'offensé, à la repentance que doit avoir l'offenseur. Il doit se repentir. Tu ne peux pas le pardonner s'il ne se repent pas. On a dit, la raison pour ça, c'est que Dieu exige lui-même. D'accord ? La repentance dans le pardon et que l'Évangile nous exhorte à pardonner comme Christ nous a aussi pardonné. Donc il y a la recherche de cette manière de faire qui est indispensable au bon rétablissement d'une relation. On connaît des personnes. Nous connaissons des personnes qui, dans leur jeunesse, sont de la même famille, dans leur jeunesse, se sont offensés et personne ne s'est jamais repenti, quoi que ce soit. Ces personnes ont 80 ans maintenant et ces choses reviennent. Elles peuvent rester fâchées des années. Et se rappeler que le truc que tu avais dit là-bas et le truc que tu avais dit là-bas, etc. Parce qu'il n'y a jamais eu de repentance, de reconnaissance de faute, de pardon prononcé. Et des fois, les gens se disent, oui, moi, tu sais, moi, j'ai oublié ça. En tout cas, pas moi, j'ai pardonné, j'ai oublié ça. Oui. Et puis, 20 ans après, ça revient. D'accord ? Parce que les gens n'ont pas oublié, les gens n'ont pas pardonné. Les personnes qui ont fauté n'ont pas reconnu leur faute. Donc, ça a laissé un contentieux qui est terrible. Et ça peut arriver aussi dans les relations entre les membres de l'Église. Alors, pourquoi est-ce que la repentance est nécessaire de la part de l'offensé? On a dit parce que bon, c'est le modèle de repentance que de pardon que Dieu donne aussi. Et puis, deuxièmement, je mets ça comme ça parce que la repentance, quelque part, rétablit ou réhabilite la vérité. Dans une offense, on pense qu'une offense qu'on a fait à quelqu'un, c'est voilà, on a blessé quelqu'un. Ce n'est pas juste ça, une offense. C'est sûr, la personne, elle est blessée dans quelque chose. Mais ce qu'il y a en jeu dans l'offense, c'est qu'on a, comment je vais dire ça ? On a atteint, il y a une vérité qui a été violée. On a violé une vérité. Ici. Quand je calomnie un frère, je viole la loi de Dieu. Je le blesse parce que j'ai dit quelque chose de mensonge où je porte. Mais je viole la loi de Dieu qui dit, Exode chapitre 20, tu ne feras point de faux témoignage. Je suis en violation d'une loi, d'une vérité de Dieu. Et ne pas se repentir, c'est laisser les choses telles qu'elles. C'est ne pas reconnaître que la loi de Dieu a été violée. Et qu'on doit se repentir pour cela. D'accord ? Donc c'est ça qui est important dans cela. Pardonner sans exiger la repentance donne l'impression que la vérité n'a pas beaucoup de valeur, en fait. Okay ? Quand tu dis, bon, c'est pas grave, oui, il a menti, il a machin, mais bon, écoute, il ne m'a pas demandé pardon, mais tu sais, je me demande de pardonner, je pardonne. Je pardonne. On est en train de dire, en fait, la vérité de Dieu, elle n'a pas beaucoup d'importance. Parce que tout péché est une offense contre Dieu, premièrement. Lorsque David a commis l'adultère contre Bathsheba, Vous avez lu sa prière de repentance dans le psaume 51. Il dit à Dieu, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Alors bien sûr, il y a eu une offense contre Bathsheba. Bien sûr, il y a eu une offense contre Uri. Mais il reconnaît que il est en train de dire que premièrement, fondamentalement, son adultère est un péché contre Dieu. Il a violé la vérité de Dieu, il a violé la loi de Dieu. Et il a dû se repentir après, n'est-ce pas, pour cela. Et donc, dans cette même prière, dans le psaume 51, il dit, « Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Quelque part, je trouve que dans cette prière de repentance, il parle de la vérité de Dieu qui doit être... qui doit demeurer au fond du cœur, c'est-à-dire le respect de sa loi, de la vérité de sa loi. Et c'est de ce qu'il s'agit lorsque j'offense. C'est pour cela qu'il est important que l'offenseur se repente, car il a violé la loi de Dieu. Et donc, dans le processus du pardon, il y a cette repentance qui est nécessaire. Il y a un auteur qui dit ceci, dans un livre que j'ai à la maison, qui s'appelait « Le pardon et l'oubli », il dit « L'offense renverse l'ordre, la repentance la rétablit. » Quelqu'un a offensé un autre, il a renversé un ordre des choses que Dieu a établies, de relations d'amour, de respect. Et la repentance rétablit cet ordre-là. Donc la repentance permet de rétablir la vérité. Puis troisièmement, une autre raison, c'est parce que la repentance est bénéfique aussi pour l'offenseur lui-même. Et quelque part, ne pas l'amener à la repentance en allant le reprendre, c'est un manque d'amour. On pense l'inverse des fois. On dit, bon, moi je fais grâce, et Dieu est un Dieu de grâce, il nous demande de faire grâce, de faire miséricorde, je fais miséricorde. Mais en fait, je ne l'aide pas parce que lui-même, il a besoin fondamentalement de la repentance. Donc quand je ne l'aide pas à parvenir à ce point-là, je manifeste plus ce manque d'amour qu'une manifestation de que la grâce ou la miséricorde, parce que il a besoin de cette repentance. Rappelez-vous de David. David, on reprend le même exemple. Après son adultère, qui c'est qui vient le voir? C'est Nathan. Et Nathan le met face à sa responsabilité. D'accord? Pourquoi? Dieu aurait pu le laisser et puis dire, bon, d'accord, bon, ça fait, ok, comme il adultère, bon, c'est grave. Okay, mais bon, c'est le roi, c'est arrivé, tout le monde, qui ne chute pas, hein? Salomon dit, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Mais ce truc est resté là, cette situation est restée sans jamais que David ait jamais prononcé un seul mot. Et Dieu est allé le chercher pour lui faire prononcer le mot « j'ai péché ». J'ai péché. Mais vous savez ce que David lui-même dit dans le psaume 32. Il parle de cette même situation après s'être repenti. Écoutez ce qu'il dit. Psaume 32, versets 3 à 6. Il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. » Et vous savez comment le psaume commence ? Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il exprime la profonde joie qu'il a, qui provient du fait qu'il s'est repenti. Il a dit, tant que je ne l'avais pas fait, j'étais, la main de Dieu s'appesantissait sur moi, j'étais, mes os se desséchaient, je n'avais plus de vigueur. C'est là, cette chose, elle est là, mais il ne peut pas vivre avec. Et parfois, ne pas aider quelqu'un à se repentir, c'est le condamner à vivre comme ça. D'accord? On ne lui dit pas, on ne lui met pas, on ne le rep... Et il est là, il a... Et des fois, il faut confronter, aider, avec amour, bien sûr. Mais amener la personne à la repentance, que vous puissiez lui dire aussi, qu'elle puisse dire, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, et qu'on puisse dire, mon frère, ma soeur, je te pardonne. Parce que Dieu me demande de te pardonner dans ces conditions-là. Donc, c'est une responsabilité si nous avons offensé quelqu'un. Alors, quelqu'un doit venir nous voir peut-être, mais si nous savons que c'est notre responsabilité, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on vienne nous voir si nous avons offensé quelqu'un. Nous devons aller confesser au Seigneur, mais aussi confesser au frère, à la sœur, que oui, j'ai péché, j'ai mal parlé contre toi. Je le reconnais. J'ai demandé à Dieu pardon, mais je te demande pardon pour ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Et on ne cherche pas à se trouver des circonstances atténuantes. On fait comme David, j'ai péché contre toi, mon frère, ma sœur. Je crois que c'est ce que Dieu attend qu'on fasse. Et quand il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le, et s'il se repent, tu lui pardonnes. Il insiste sur le fait que l'offenseur a une responsabilité profonde de se repentir dans le processus du pardon. Quand il a fauté et qu'il a offensé l'autre au point que la relation s'est rompue. Ça, c'est une chose qui est importante, qui est difficile dans un couple, entre parents-enfants aussi, dans le milieu professionnel aussi, parfois, c'est un peu plus difficile, mais entre frères et sœurs dans l'Église, c'est quelque chose qui est important. Les relations se détériorent parce que ce processus-là n'est pas respecté. Et nous devons, quand nous parlons de pardon, non pas avoir notre propre idée. Hein. Je parlais une fois avec quelqu'un qui disait... chrétien qui disait, oh moi, tu sais, j'ai pas besoin qu'on vienne me demander pardon ou qu'on se repente. Bon, des fois, la personne commence à me parler un petit peu, bon, j'ai compris qu'elle me demande pardon. J'accepte qu'elle me demande pardon comme ça. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas comme la parole nous demande. C'est pas ce que nous pensons ou que nous ressentons qui est important dans le processus du pardon. C'est ce que Dieu dit. Et il veut qu'on fasse comme il nous commande de faire. Un enfant obéissant fait comme son père lui commande de faire. Donc, on doit prendre les responsabilités qui sont les nôtres, dans un camp ou dans l'autre, tel que le Seigneur nous le commande ici, si on veut que les relations soient de bonnes relations qui glorifient Dieu. Que le Seigneur nous aide à mettre cela en pratique, à le retenir, et quand la situation se présente, à reprendre ces choses, considérer ces versets et à agir comme le Seigneur nous commande d'agir. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, qui est la vérité. Nous reconnaissons combien, oui, nous péchons parfois contre les autres, parfois nous offensons par nos attitudes, nos paroles, et parfois nous sommes offensés aussi. Seigneur, ta parole dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Et je te prie que tu nous aides à vraiment considérer le pardon, non pas selon notre pensée, mais à le considérer bibliquement, comme ta parole l'enseigne, comme ta parole le montre, comme elle le met en évidence, Seigneur Dieu. Et que nous puissions nous soumettre à ta parole et appliquer les principes tels qu'ils sont enseignés et commandés dans ta parole pour la gloire de ton nom et aussi pour notre bien. Nous te demandons ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.